Dr Ted Riel de Brent, OT Histoire, Lit. Et Théologie, Conférence 2. Symbole Copyright 2020 Dr Ted Riel de Brent. À introduction et prière entre minuit et 2h24. Il s'agit de la deuxième conférence du Dr Ted Riel de Brent sur la littérature et la théologie de l'histoire de l'Ancien Testament. La conférence d'aujourd'hui portera sur les doctrines de l'inspiration, de la canonisation, de la transmission et de la traduction. Il y a une chose que je dois dire que quelqu'un a fait l'année dernière et que j'ai trouvé vraiment cool. J'avais une fille qui était assise ici et son père voulait suivre son cours sur l'Ancien Testament avec elle. Nous parlons de parents hélicoptères, mais quoi qu'il en soit, en fait, j'ai vraiment apprécié ce gars. J'ai fini par lui envoyer un email. Ce type m'a envoyé des emails et c'était vraiment cool. Il faisait les lectures, et ça me plaisait. Au fait, était-ce vraiment génial de pouvoir voir ce que sa fille apprenait? Vous ne trouvez pas que c'est bien, d'accord, je pensais que c'était plutôt bien. Commençons par un mot de prière, puis nous passerons en revue quelques éléments ici aujourd'hui. Père, nous sommes si reconnaissants que tu aies parlé et que tu as parlé à des prophètes qui étaient des hommes et des femmes de Dieu, et qui l'ont enregistré les Écritures. Ensuite, vous l'avez fait préserver pour nous pendant des milliers d'années à travers toutes sortes de ravages du temps. Vous l'avez fait conserver et traduire en anglais pour que nous puissions le comprendre, et nous l'avons toujours. Beaucoup d'entre nous en possèdent même plusieurs exemplaires et nous vous remercions pour la parole que vous avez prononcée. Nous te remercions pour ta parole dans la nature, et nous venons, au moment du passage de cet ouragan, de nous rendre compte que les cieux déclarent la gloire de Dieu. Alors nous regardons les cieux et nous te louons pour ta grandeur et pour l'univers que tu as créé. Nous te remercions surtout pour ton Fils Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés. Nous vous remercions infiniment pour votre amour et votre compassion. Je prie pour que vous puissiez nous aider aujourd'hui alors que nous abordons certaines choses plutôt délicates. Nous prions pour que vous me donniez la capacité de les prononcer d'une manière qui renforce la foi plutôt que de la détruire, et que le nom de votre Fils puisse être honoré par cette classe, en son précieux nom, nous prions. Amen. Bilan, argument cosmologique et téléologique en faveur. L'existence de Dieu entre 2h25 et 6h26. La dernière fois, nous disions que la Bible, nous allons étudier l'Ancien Testament, que ce livre est la parole de Dieu. La première chose que nous devons montrer est donc que croire en Dieu est raisonnable. Maintenant, pouvons-nous prouver qu'il existe un Dieu? Non. Pouvons-nous démontrer que c'est raisonnable? Les gens peuvent-ils prouver comment le Big Bang s'est produit il y a environ 16 milliards d'années? Les gens peuvent-ils le prouver? Non. Est-ce également une hypothèse de leur part? Alors, est-ce que seuls les chrétiens ont foi dans les hypothèses? D'autres personnes ont-elles également des hypothèses? Oui. La science en a, chaque culture en a. Alors, y a-t-il un Dieu? Nous avons parlé de l'argument cosmologique, qui consistait essentiellement à suivre la cause-effet, la cause-effet, la cause-effet, jusqu'à la cause initiale, la pastèque ou le pamplemousse initial, et ce qui a causé la création de l'univers. En tant que chrétiens, nous dirions que la cause initiale impliquée dans la destruction de la pastèque ou du pamplemousse était Dieu, et que Dieu était impliqué dans la création de l'univers. Alors, quelle a été la première cause à l'origine de tout le reste? Nous dirions que c'est Dieu. La première cause est l'argument cosmologique. Nous avons également utilisé l'argument téléologique. L'argument téléologique était un argument de conception. L'univers est très, très bien structuré, très bien commandé. Un gars a écrit un livre, Les six nombres, et si vous changez l'un de ces six nombres, l'univers tout entier change. Par exemple, l'attraction gravitationnelle, que se passe-t-il si l'attraction gravitationnelle était différente de ce qu'elle est actuellement? Supposons que la gravitation ne représente que les trois quarts de ce qu'elle est actuellement. Que serait-il arrivé à l'univers lors de son explosion? Au lieu que la gravitation maintienne les choses ensemble, que ferait l'univers? Il aurait été détruit. Que se passerait-il si la gravitation, en revanche, était plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui? L'univers s'éteindrait et il est possible qu'il soit réaspiré. mais tel qu'il est, l'attraction gravitationnelle semble parfaite dans la mesure où elle nous permet de vivre. Il y a aussi d'autres facteurs. La taille et le poids d'un proton, et si cela changeait? Cela changerait tout. Et donc, ce type passe en revue six nombres et dit que l'univers est incroyablement équilibré autour de ces six nombres. Maintenant, on pourrait dire que c'est de la chance, n'est-ce pas? Nous avons juste eu de la chance. Mais cela ne vous fait-il pas dire, c'est tout simplement trop de choses pour être de la chance? C'est donc un peu comme si nous avions utilisé l'exemple de cette pièce avec les chaises dans cette pièce. Vous entrez dans cette pièce et vous regardez ces chaises, supposeriez-vous que c'est juste de la chance et du hasard que ces chaises soient apparues telles qu'elles sont maintenant? Non, quand vous regardez les chaises alignées, vous concluez, quelqu'un a fait ça. Comment savez-vous que ces chaises ont été placées là par quelqu'un? Parce qu'il y a trop d'ordre. Vous avez trois rangées ici, vous n'avez pas de chaises au milieu, elles sont en quelque sorte inclinées, vous en avez dix d'affilée comme ça, elles sont toutes bien alignées. Vous dites, cela ne peut pas être dû au hasard, il doit y avoir un designer qui a conçu cette pièce et l'a construite comme ça. Voilà donc l'argument du design, cela s'appelle l'argument téléologique. Ensuite, nous avons parlé un peu de conception intelligente et en fait, je pense que la dernière fois que j'ai mélangé mon équipe, William Craig, avec un gars nommé William Dembski, le mathématicien qui avait le double doctorat était Dembski de l'Université de Chicago. Craig est également un apologiste, sur la côte ouest au séminaire Talbot, est-ce que quelqu'un le connaît? Quoi qu'il en soit, Craig est là-bas, il fait également valoir ses excuses, mais Dembski est l'un des plus grands, double doctorat en conception intelligente. Maintenant, différentes personnes établiront alors, comment cela est-il arrivé? La conception intelligente dit qu'il y a tellement d'ordre dans l'univers qu'il faut quelqu'un, qu'il faut une intelligence pour concevoir cela, car ce n'est pas seulement de la chance et du hasard, sinon il y aurait encore plus de chaos. Ces arguments moraux en faveur de l'existence de Dieu entre 6h27 et 9h39. Voici maintenant notre prochain argument. C'est l'argument moral. Les animaux ont-ils une morale? Nous sommes allés au parc national de Yellowstone, j'ai emmené mon fils qui vient de rentrer d'Afghanistan. Quel est l'un des problèmes liés à une promenade à Yellowstone? Y a-t-il de grosses créatures là-bas? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un homme de 57 ans et sa femme qui allaient se promener. Il s'avère qu'il y avait une mère grizzly. Le grizzly a vu l'homme, s'est lancé à sa poursuite et l'a tué. Quel est le problème avec le grizzly? Un grizzly est-il capable de s'emparer d'un être humain assez facilement? Leurs griffes sont aussi longues que mon doigt. Le grizzly fait ça une fois et tue évidé. Ces animaux sont incroyablement forts et peuvent courir très vite. Quoi qu'il en soit, ce type a été dévoré. Au fait, sa femme s'est enfuie, savez-vous comment elle s'est enfuie? C'est la vérité, elle a commencé à crier après l'ours et personne ne peut supporter qu'une femme lui crie dessus alors l'ours s'est enfui. C'était une blague, je dois faire attention à ce genre de choses maintenant que je suis enregistré, mais ce que je dis, c'est comment la femme s'est-elle enfuie? Savez-vous ce qu'elle a fait? C'est la vérité, ce qu'elle a fait, c'est que pendant que son mari était dévoré par l'ours, elle a fait semblant d'être morte. L'ours s'est approché, l'a foutu, s'est peut-être agrippé à elle, je pense qu'elle avait quelques blessures mineures, mais l'ours ne l'a pas dévoré parce qu'il a pensé qu'elle était morte et l'a laissé tranquille. C'est la vérité, elle s'est enfuie en faisant le mort. C'est assez bizarre, n'est-ce pas? Elle est devenue totalement molle et a fait comme si elle était morte et elle a été épargnée. Ce que je veux dire, c'est que si un animal dévore un être humain, est-ce un animal immoral? Les animaux ont-ils une morale? Non, ils se mangent. C'est ce que je dis, ils dévorent les choses naturellement. Un être humain qui tue un autre être humain, est-ce qu'il y a quelque chose d'immoral à cela? Nous avons des lois qui appellent cela un meurtre. Au fait, y a-t-il également différents niveaux de meurtre? Une personne de 85 ans est dans une voiture et ne sait pas ce qu'elle fait. Ils ont appuyé sur la pédale d'accélérateur au lieu de freiner et ont fini par renverser un enfant. Cela a fini par se produire à Boston. supposons que l'enfant soit tué, cette personne âgée est-elle un meurtrier? Eh bien, il ne devrait pas conduire, mais c'est une autre question. Ce que nous disons, c'est qu'il n'y a eu aucune intention malveillante ni prévoyance. Cette personne était probablement dévastée d'avoir tué quelqu'un. En d'autres termes, les êtres humains ont une morale. D'où vient cette morale? Si vous ne croyez pas que Dieu existe, alors d'où vient la morale? À propos, les laïcs peuvent-ils inventer des lieux d'où vient la morale? Oui, ils le peuvent, mais doivent-ils travailler beaucoup plus dur que nous pour dire qu'il existe un Dieu qui a parlé et dit, « Tu ne feras pas, quoi ? » Commettre un meurtre. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, c'est assez direct. Alors, d'où vient la morale? C'est plus un problème sans Dieu qu'avec Dieu. Le pari de D. Pascal comme preuve de l'existence de Dieu entre 9h40 et 13h16. Le pari de Pascal. C'est celui que j'aime. Est-ce que quelqu'un aime jouer? Non, mais permettez-moi de dire ceci. Nous allons lancer 7 et 11 avec quelques dés. Chaque dé a 6 faces, alors combien de possibilités peut-on obtenir avec 2 dés? Vous faites probablement cela dans les statistiques. 6 sur chaque dé, donc 6 fois 6, donc 36 combinaisons différentes. Maintenant 7, vous pouvez obtenir de combien de manières? 1 et 6, 3 et 4, etc. Nous allons donc lancer les dés, et voici comment cela va se passer. Parce que je tiens à vous les gars, nous allons organiser ça. Si je lance les dés et que je n'obtiens pas 7 ou 11, en d'autres termes, vous gagnez et je perds, je vous donnerai $1. Si j'obtiens les 7 ou 11, vous me paierez $10 000. Quelqu'un veut rouler? Quel est le problème? Je les lance une fois et je perds, je ne te paie $1. Je les lance deux fois, je perds, je te paie $1. 3, 4, 5, 10, je les lance 10 fois, je vous ai payé quoi? $10. Je gagne une fois, et tu me paies quoi? 10 000. Question, est-ce que je vais rouler avec toi toute la nuit comme ça? Oui. Pourquoi? Si je perds, j'ai quoi perdre? Je perds $1. J'ai très peu à perdre. Mais ai-je énormément à gagner lorsque je gagne? Très peu à perdre, tout à gagner. Le pari de Pascal fonctionne ainsi, il dit ceci, s'il n'y a pas de Dieu, qu'ai-je perdu? Très peu. Supposons qu'il n'y ait pas de Dieu et que vous disiez, eh bien, vous avez cru toute votre vie et c'était un mensonge et Dieu n'existe pas, qu'est-ce que j'en ai retiré? J'ai trouvé une merveilleuse famille, une merveilleuse épouse, je ne pouvais pas demander mieux. Donc j'ai encore tout ça. Si par contre je crois qu'il n'y a pas de Dieu, et que tout d'un coup je meurs et que je me retrouve face à face avec ce Dieu qui n'existe pas et que je l'ai blasphémé toute ma vie et que je me fais griller après, y a-t-il un problème? En d'autres termes, vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. S'il n'y avait pas de Dieu et que je croyais qu'il existait un Dieu, je n'ai presque rien perdu. S'il s'avère que Dieu existe et que je ne crois pas en lui, je perds tout après la fin de cette vie. C'est ce qu'on appelle le pari de Pascal, et il dit que si vous croyez en Dieu et qu'il s'avère que vous vous êtes trompé, vous n'avez pas perdu grand-chose. Si vous croyez qu'il n'y avait pas de Dieu et qu'il s'avère que oui, vous venez de perdre votre âme et c'est un gros problème. Le pari de Pascal, ne lancez pas les dés pour de l'argent. L'argument de Jésus, menteur, fou, légende ou Seigneur 13, 17-20, 46. Que fais-tu de Jésus? Vous pouvez dire, je ne crois pas en Dieu. D'accord, que fais-tu de Jésus alors? Jésus a-t-il prétendu être Dieu? Jésus a dit, Ego mi. Cela signifie, je suis. Je suis quoi? Lorsque Jésus dit, je suis, quelle est la réaction des Juifs? Ils voulaient le lapider. Pourquoi voulaient-ils le lapider? Parce que toi, un simple homme, tu prétends être, quoi? Dieu. Qui est, je suis ce que je suis. Vous vous souvenez de l'Ancien Testament, je suis ce que je suis. Est-ce le nom, Jéhovah, le nom le plus sacré de Dieu? Jésus dit, je suis, et ils essaient de le lapider parce qu'ils ont dit, tu viens de prétendre être Dieu. Nous allons donc essayer de vous tuer, de vous lapider, pour blasphème. Parce que toi, un simple homme, tu prétends être Dieu. Au commencement, écrit son apôtre Jean, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Il parle donc des logos. L'être divin, le logos, la parole de Dieu, devient désormais chair. Jésus prétendait être Dieu. Donc C.S. Lewis a dit ceci, soit Jésus est un menteur, soit un fou, ou bien il est celui qu'il prétend être, il est le Seigneur. Maintenant, Jésus étant un menteur, quel est le problème avec ça? Quand vous lisez les œuvres de Jésus, avez-vous l'air d'un grand menteur? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus a dit la vérité et le mensonge entre en conflit avec son caractère moral. Si une personne dans cette pièce prétendait que tu étais Dieu, on penserait que tu es quoi? Fou. Jésus prétendait l'être et, au fait, ses propres frères et sœurs pensaient-ils qu'il était fou? Dans le passage de Matthieu 12, ils sont venus l'emmener parce qu'ils pensaient qu'il était fou. Jésus était-il un fou? Y a-t-il des fous qui se prennent pour des dieux? Surtout quand ils consomment une certaine quantité de substances. Jésus est-il un fou? Avez-vous lu le sermon sur la montagne? Quand vous lisez le sermon sur la montagne, bienheureux les pauvres, bienheureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde, bienheureux les cœurs purs car ils chercheront Dieu. S'agit-il là de déclaration d'un fou? Si vous avez déjà lu le sermon sur la montagne, est-ce l'œuvre d'un fou? N'est-ce pas là l'une des littératures les plus incroyables jamais écrites? Je ne pense pas que vous irez trop loin avec cette idée selon laquelle Jésus est un fou. Les enseignements de Jésus sont incroyables. Jésus était Seigneur, c'est la conclusion de Lewis. Lewis a sauté celui-ci, et cela me dérange parce que je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'aiment toujours pas Jésus en tant que Dieu. Tout le monde aime Jésus comme un Mahatma Gandhi gonflé à bloc. C'est donc pour beaucoup, Jésus était un bon prophète, une sorte de Martin Luther King sous stéroïdes. Quoi qu'il en soit, là où tout le monde a des problèmes avec Jésus, ce sont ses prétentions à être Dieu. C'est là qu'ils ont des problèmes. Jésus était un bon prophète, et tout le monde aime Jésus comme un bon prophète, mais dès que Jésus prétend être Dieu, c'est là que les gens paniquent. Maintenant, d'où vient cette divinité de Jésus? Certains critiques diront aujourd'hui que cette idée selon laquelle Jésus était Dieu était en réalité une légende, qui s'est développée au fil du temps. Ainsi s'est développé ce Jésus légendaire. Mais je veux vous poser des questions sur ces apôtres, qui, dit-on, ont conçu ces légendes sur Jésus. Que savez-vous des apôtres? Les apôtres étaient vraiment des gens courageux. Au début, les disciples de Jésus étaient très, « Jésus, tu vas à la mort, et nous irons à la mort avec toi. Nous resterons à vos côtés. Nous sommes là avec vous, nous croyons en vous de tout notre cœur. » Tout d'un coup, Jésus est capturé dans le jardin de Gethsémani et que arrive-t-il aux disciples? Ces types disaient, « Excusez-moi, quelqu'un pourrait se faire tuer par ici. Ils vont tuer quelqu'un, nous devons sortir d'ici. » Alors les disciples s'en vont. Maintenant, je vous pose une question, à la croix de Jésus, où étaient tous les disciples? Ils se cachaient dans la peur. Ce sont les femmes qui sont restées à ses côtés. Mais alors que se passe-t-il? 3 jours plus tard, tout d'un coup, ils se rendent au tombeau, et que arrive-t-il alors aux disciples? Y a-t-il une transition avec les disciples? Les disciples qui avaient peur et se sont enfuis mourront-ils maintenant pour Jésus-Christ après la résurrection? Dites-moi ce qui arrive aux 12 disciples, enfin, l'un d'eux a en quelque sorte fait la liste de choses à faire et n'y est pas parvenu. Donc Judas est parti, mais ces 11 disciples, que leur est-il arrivé à tous, sauf que nous nous demandons à propos de Jean, que leur est-il arrivé? Avons-nous des traces de ce qui leur est arrivé? Chacun d'entre eux est mort d'une mort horrible, prenons Pierre comme exemple, Pierre a été crucifié la tête en bas. S'il venait d'inventer cette légende selon laquelle Jésus est Dieu, mourriez-vous pour quelque chose comme ça? À propos, un ou deux pourraient mourir, parce qu'il était fou ou quelque chose comme ça, mais ils mourraient tous les 11 sans jamais dire, arrête, j'ai juste inventé ça, je plaisantais, ne me tue pas, non, ils ont tout marché jusqu'à la mort et ont été martyrisés. même John, ils ont commencé à le faire frire dans l'huile. Ce que je dis, c'est, ont-ils cru cela de tout leur cœur? Ils y ont cru à quel point? La mort. Au fait, est-ce que c'était juste pour leur mettre une balle dans la tête? Non. Beaucoup d'entre eux ont été torturés à mort, et c'est ainsi qu'ils sont morts. Alors cette idée selon laquelle les disciples auraient simplement inventé ces légendes, quel est l'autre problème? Si les disciples inventaient simplement ces histoires, y avait-il d'autres personnes autour d'eux qui pourraient les dénoncer et dire, ce n'est pas vrai? Jésus est ressuscité des morts, disaient les disciples, et il y avait des gens autour qui disaient, non, cela n'est jamais arrivé, nous étions là, cela n'est jamais arrivé. Quel est le problème avec ça? Paul dit, et, si vous ne me croyez pas au sujet de la résurrection de Jésus d'entre les morts, il y a 500 personnes encore en vie ici, vous pouvez leur demander. 500 personnes ont toutes vu Jésus ressuscité d'entre les morts, outre les 12 apôtres, et à part moi, Paul et moi avons vu Jésus sur le chemin de Damas, vivant après sa mort. En d'autres termes, ils ne peuvent pas inventer leur histoire parce qu'il y avait d'autres personnes qui auraient démenti leurs histoires. Paul dit d'aller interroger les personnes qui ont été témoins oculaires. Donc Jésus est plutôt bon. Jésus-Christ prétend être Dieu, et il y a des raisons de le croire. Est-ce que cela le prouve? Cela ne le prouve pas, mais il est raisonnable de penser certaines de ces choses. F. Argument du témoignage personnel pour l'existence de Dieu entre 20h47 et 22h21. Témoignage personnel. Connaissez-vous des gens qui suggèrent qu'ils ont rencontré Dieu? Y a-t-il des gens dans cette salle qui prétendraient avoir rencontré Dieu, y compris le professeur? Je jure que j'ai vu l'œuvre de Dieu l'année dernière, louez Dieu, je veux dire, avez-vous déjà prié pour quelque chose qui compte vraiment, vraiment? L'année dernière, à peu près à la même époque, mon fils était en Afghanistan. On lui tirait dessus tous les jours. Il est resté hors des barrières pendant 28 jours consécutifs, se faisant tirer dessus tous les jours. Ai-je prié pour lui? Est-ce que certains de ses copains ne sont pas revenus? D'autres personnes ne sont pas revenues. Il est revenu. Dieu l'a épargné. Je loue Dieu pour cela. Les gens diront qu'il a eu de la chance, c'est juste un coup de chance qu'il n'ait pas été tué, mais je peux répéter encore et encore des choses qui montrent que Dieu répond à la prière. Le témoignage personnel compte-t-il? Y a-t-il des millions de personnes qui croient en Jésus-Christ et prétendent avoir une relation avec Dieu? Oui. Maintenant, est-ce que vous rejetez cela parce que ce sont tous des cinglés? Vous devez y réfléchir. Vous pourriez dire, eh bien, oui, c'est vrai, Hildebrandt. J'ai la prophétie prédictive comme preuve de l'existence de Dieu 22:22-24:45. Voici quelques autres choses qui proviennent de la Bible elle-même. Dans ce livre, Dieu connaît-il l'avenir depuis le début? Du début à la fin, Dieu connaît-il l'avenir? Maintenant, connaissez-vous l'avenir? Y a-t-il quelqu'un dans cette salle ou sur ce campus qui connaît l'avenir? Question, qu'arrivera-t-il à la bourse demain, à la hausse ou à la baisse? Personne ne sait. En d'autres termes, la situation a été si irrégulière qu'on ne peut pas prédire demain ce qui va se passer. Maintenant, vous avez un Dieu qui prédit les choses 700 ans avant qu'elles n'arrivent. Au fait, 700 ans, c'est un peu une période de temps. 700 ans avant Jésus-Christ, Michée le prophète dans Michée 5, 2 dit, « Et, quand le Messie viendra, il ne naîtra pas n'importe où, le Messie naîtra à Bethléem de Judée. » Vous pourriez dire, oui, mais des millions de personnes sont nées à Bethléem et c'était juste sa chance. Dites-moi, quelle était la taille de la ville de Bethléem? La ville de Bethléem pourrait tenir ici sur le quat. Nous parlons de 3, 4, 500 personnes maximum. Nous sommes américains, nos villes sont grandes, New York, Los Angeles et Boston. Nous faisons les grandes villes. Là-bas, leurs villes sont des villes, et d'ailleurs vous remarquerez que dans le DAV, je traduis souvent « ville » au lieu de « ville », parce que ces lieux sont si petits. La plupart des lieux et des villes dont vous avez entendu parler en Israël pourraient tenir sur le campus de Gordon, y compris Jéricho. Au fait, est-ce que quelqu'un se souvient combien de fois ils se sont promenés dans Jéricho en une journée? Cette fois. Qu'est-ce que cela vous dit? Est-ce une grande ville qu'ils font sept fois ou est-ce une petite ville qu'ils font sept fois?
Oui, petite, Jéricho est petite.
Donc ce que je dis, c'est que si Jésus vient de Bethléem de Judée, était-ce une petite ville d'origine? Cela est prédit 700 ans avant sa naissance. Dans quelle ville Jésus est-il né?
Bethléem de Judée.
Il y a des prophéties comme celle-là, permettez-moi d'ajouter une prophétie à une autre prophétie à une autre prophétie, et vous commencez simplement à additionner ces choses et vous dites que cela ne peut pas être juste le hasard. La Bible a noté cela. Qui connaît l'avenir?
Dieu connaît l'avenir.
Vous vous attendriez à ce que Dieu soit capable de dire ce qu'est l'avenir et de le faire correctement, et il le fait. Les récits de miracles comme preuve de l'existence de Dieu 24, 46-27, 26. Autre chose, les miracles. Vous avez un casier. Moïse marche jusqu'à la mer Rouge et dit, Wem bam. Et devinez ce qui se passe. Les eaux se séparent, les Juifs traversent. Les Égyptiens arrivent en camion après eux et l'eau tombe et noie tous les Égyptiens. Maintenant vous dites, c'était juste de la chance, le miracle, le vent soufflait, ils avaient un Orester ce jour-là et il a refoulé toute l'eau, mais il était assez fort pour souffler 50 pieds d'eau mais les gens pouvaient toujours marcher à travers. Puis ils arrivent de l'autre côté et tout d'un coup, cette manne a commencé à descendre du ciel. Cela ne se passe généralement pas ainsi. Ensuite, ils sont dans le Sinaï, un grand désert, ils n'ont pas d'eau, alors ce type monte avec un bâton et frappe un rocher et tout d'un coup, cette eau sort de ce rocher et satisfait tous ces gens. Vous dites, miracle. Ils remontent jusqu'au Jourdain et dans certaines parties du Jourdain aussi et font sept fois le tour de la ville et disent, « Eh, les gars, sortez et jouez. » Et les murs tombent tout. En fait, ce que c'était, c'est qu'ils s'agitaient, ils se promenaient comme ça, tous s'agitaient et le sol tremblait, vraiment. Assez pour que de grands murs s'effondrent. Oui, ce serait miraculeux. Jésus dit, et, vous avez 5000 personnes ici, combien de poissons avez-vous?
Nourrons ces gens.
Ou Élie, montant sur le mont Carmel, et un éclair tombant à sa demande, faisant frire cet autel pendant que ces 400 prophètes de Baal s'en vont crier à leurs dieux et se couper comme des meurtriers. Ce sont donc des miracles. Si vous critiquez la Bible et ne croyez pas en Dieu, quelles sont les deux choses dont vous devez vous débarrasser dans la Bible? Vous devez vous débarrasser des prophéties et vous devez vous débarrasser des miracles. Vous dites, je ne crois pas aux miracles, Dieu n'existe pas, donc il ne peut y avoir de miracles. Vous devez passer de miracle en miracle et les expliquer tout au long de la Bible, y compris ce type étant né d'une vierge. Vous devez vous en débarrasser, même si je suppose que nous pourrions le faire aujourd'hui. Mais voyez-vous ce que je dis, Jésus est né d'une vierge, mais ils utiliseraient quelque chose comme, peut-être que c'était un soldat allemand, ou, peut-être que c'était une insémination artificielle, pour expliquer la naissance virginale loin de Christ. Ils doivent s'en débarrasser parce que la naissance virginale était un miracle, Ésaïe 7, 14. Il est juif comme preuve de l'existence de Dieu 27, 27-33, 27. Maintenant, voici quelque chose qui a été inventé par le roi Frédéric en Prusse, il a dit, « Prouvez-moi qu'il y a un Dieu en un seul mot. » Ce conseiller a répondu, « Les Juifs. Parlez-moi du peuple juif, parlez-moi des Babyloniens. Vous souvenez-vous de l'empire babylonien? Babylone était un immense et magnifique empire. Où est le peuple babylonien aujourd'hui? Ils ne sont nulle part. Et les Assyriens? Les Assyriens à Ninive, 1850 acres de terre, une ville immense, un empire immense, mais où sont les Assyriens aujourd'hui?
Nulle part.
Les Moabites, les Ammonites, les Édomites, tous les Hittites et Taïtes de la Bible, où sont tous ces groupes de personnes? Ils sont partis. Question, si je vous demandais où se trouvaient les Juifs aujourd'hui, que diriez-vous?
La ville de New York.
Pour être honnête, il y a autant de juifs à New York qu'en Israël, le saviez-vous? Il y a beaucoup de juifs en Israël et j'ai beaucoup de respect pour eux. En fait, j'ai vécu en Israël pendant un an. Mais les choses vont mal là-bas maintenant et vous devez prier pour la paix à Jérusalem.
Tout ce que j'essaie de dire, c'est qu'au fil des siècles, les gens ont-ils délibérément tenté de détruire les Juifs? Est-ce que cela s'est produit à plusieurs reprises, encore et encore dans l'histoire?
Oui, le dernier en date étant l'Holocauste avec Hitler, 6 millions de Juifs ont été exterminés.
Est-ce que ça fait beaucoup de Juifs?
Les Juifs ont-ils survécu à cela?
Existe-t-il encore un groupe de Juifs même après que cela se soit produit?
Au fait, y a-t-il aujourd'hui des gens qui disent que l'Holocauste n'a jamais eu lieu?
Oui. Il y a 3 ou 4 jours, Aminajab a déclaré qu'il s'engageait à détruire totalement Israël.
C'est tout récemment.
Est-ce qu'il va probablement réussir?
Oui.
Il essaie de créer une arme nucléaire pour ce faire.
Israël est donc confronté à des problèmes majeurs.
Question, l'Holocauste n'a jamais eu lieu.
Aminjad a sa propre opinion, il dit que l'Holocauste n'a jamais eu lieu.
Vous avez votre opinion et vous dites que l'Holocauste a eu lieu.
C'est votre opinion contre la sienne.
Comment savoir qui a raison?
Chacun peut avoir sa propre opinion.
C'est juste son opinion par rapport à la vôtre.
Dans le postmodernisme, pour vous les gars, c'est juste, eh bien, vous pensez ceci et c'est bien de penser ceci et je pense cela et c'est bien.
Nous pouvons coexister pacifiquement.
Est-ce que quelqu'un a déjà dit ce qui s'est réellement passé?
Son opinion est que cela n'est jamais arrivé, est-ce important?
Est-ce arrivé ou pas?
Est-ce important que je le reconnaisse ou non?
Si je ne le reconnais pas, cela signifie-t-il que cela ne s'est pas produit?
Non, peu importe ce que je pense.
C'est arrivé.
Et d'ailleurs, certaines des personnes qui sont allées à Auschwitz et dans certains de ces endroits ont-elles dit que c'était si horrible, personne ne croira jamais cela.
Eisenhower a demandé à ses troupes de documenter ces atrocités parce qu'il a déclaré, personne ne croirait ce que nous venons de trouver ici.
Il a volontairement fait documenter cela.
Maintenant, si vous ne le croyez pas, laissez-moi vous raconter l'histoire d'une dame nommée Sonia White qui se tenait sur cette estrade.
Elle est ce qu'il appelle, une survivante, et je suis désolé si vous partez dans une direction différente lorsque je dis, survivante.
Quand je parle d'un, survivant, j'entends quelqu'un qui a survécu à l'Holocauste.
Elle a été mise dans un wagon à bestiaux, dans un train avec sa sœur, nue avec des centaines d'autres personnes, comme des sardines.
Dans sa famille, tout le monde a été tué et seule elle et sa sœur ont survécu.
Je ne sais pas comment ils ont survécu, raconte T.L.
Elle a déjà été sur cette plateforme.
Eh bien, dites-vous, c'est juste votre opinion, versus.
Question, était-elle là?
Et elle décrit l'Holocauste.
Elle est décédée maintenant, au fait, est-ce que ces gens vieillissent?
Je me demande si je dois le mettre en ligne ou non.
C'est juste une histoire incroyable, celle d'une femme qui a vécu l'Holocauste et a été envoyée dans les camps de concentration.
Sa famille a été détruite et elle s'est tenue sur cette estrade et a raconté ce qui lui était arrivé.
Question, l'Holocauste est-il légitime?
Oui.
Comment sais-tu ça?
Parce qu'il y a un témoin oculaire, cette personne était là.
Ce n'est pas le lire dans un livre d'histoire, elle était là.
Bref, les Juifs.
Comment savez-vous que les Juifs vont durer?
Les Juifs vont-ils tenir jusqu'à la fin?
La promesse d'Abraham, la terre, la semence, que leur semence se multiplierait comme quoi?
La graine se multiplierait comme les étoiles dans les cieux et le sable du bord de la mer.
Il devait être une bénédiction pour toutes les nations.
L'Alliance est la terre de Palestine, la semence, afin que la semence se multiplie et qu'elle soit une bénédiction pour toutes les nations.
Les Juifs seront-ils là quand le Christ reviendra?
Assez sûr.
Alors, quiconque essaie de les détruire, que leur arrive-t-il habituellement?
Ils finissent par avoir des problèmes et donc je m'inquiète de la prochaine fois que cela se produira, je pense que ce sera très grave.
Ainsi, les Juifs ont persévéré face à tous ces autres personnages de la Bible qui sont partis, mais les Juifs survivent toujours.
Encore une fois, c'est l'œuvre de Dieu.
D'où vient la Bible?
Première étape, inspiration 33:28-38:50.
Maintenant, nous allons changer de sujet.
D'où trouvons-nous notre Bible? Nous allons donc retracer tout cela, et permettez-moi d'avancer un peu plus rapidement. Je vais faire une partie de cela de ma tête juste pour que nous puissions accélérer un peu les choses. La Bible prétend-elle venir de Dieu? Est-ce que cela prétend? Votre manuel de calcul prétend-il provenir de Dieu? Votre manuel de sociologie, de psychologie ou de chimie prétend-il provenir de Dieu? Y a-t-il des centaines de milliers de volumes de notre bibliothèque qui ne prétendent pas provenir de Dieu? Combien de livres dans notre bibliothèque prétendent provenir de Dieu? Y en a-t-il probablement juste une poignée? La Bible affirme-t-elle cela? Oui. 2 Timothée 3, 16 dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Le mot grec actuel est théopneusto, qui signifie « Dieu a respiré ». Toute écriture est inspirée par Dieu. Quand je parle ici, si vous êtes assis devant, vous le savez, quand je parle, est-ce que je parle en utilisant ma respiration? Oui, la respiration est la façon dont vous parlez. Toute écriture est insufflée par Dieu, la parole de Dieu est soufflée dans les prophètes, et les prophètes l'écrivent. Paul dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre et corriger ». En voici une qui est intéressante, dans 2 Pierre 1, 21, Pierre dit ceci, « Car la prophétie n'a jamais eu son origine dans la volonté de l'homme. » Est-ce vraiment important? La prophétie est venue, mais est-elle venue de l'homme ou est-elle venue de Dieu? Pierre dit que la prophétie n'est jamais née de la volonté de l'homme. À propos, y a-t-il eu des prophètes qui ont été négatifs, qui ont parlé de leur propre volonté et ont dit, « Ainsi dit le Seigneur, alors que le Seigneur n'avait pas, ainsi dit. » Y avait-il des prophètes comme celui-là, « Ainsi parle le Seigneur, et Dieu ne leur avait pas parlé. » Ces gens s'appellent comment? Faux prophètes. Y avait-il beaucoup de faux prophètes dans l'Ancien Testament? Quand Élie, le bon prophète, les affronte, quel est le rapport entre les vrais prophètes et les faux prophètes? 1 à 400. Il y avait beaucoup de faux prophètes. Les vrais prophètes disent, « Ainsi parle le Seigneur. » Et ils ont parlé de la part de Dieu. Pierre dit que, la prophétie n'a jamais eu son origine dans la volonté des hommes. Mais les hommes parlaient de la part de Dieu, portés par le Saint-Esprit. Ces hommes n'ont pas parlé d'eux-mêmes, inventant ces choses, ils ont été, portés par le Saint-Esprit, et donc c'est 2 Pierre 1, 21, l'origine est en Dieu. En voici un autre. Autrefois, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Dieu a parlé aux prophètes de différentes manières et à différentes époques. Dieu a-t-il parlé aux prophètes de différentes manières? Parfois il leur apparaissait, parfois il leur parlait, et de toutes les manières. Mais dans ces derniers jours, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il nous a parlé dans son Fils. Jésus-Christ devient la parole de Dieu incarnée. La parole de Dieu, la parole de Dieu de l'Ancien Testament, où Dieu parlait au peuple, devient maintenant Jésus-Christ. Au commencement était la parole et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous, Jean 1. La parole de Dieu s'incarne en Jésus-Christ. Les prophètes ont donc bien fait, mais Jésus fait-il mieux? Oui, Jésus fait exploser tout. Maintenant, vous avez l'expression de Dieu, non pas en mots, en phonèmes et en morphèmes écrits, vous avez la parole en chair. Jésus est Dieu incarné, Hébreu le souligne. En voici une autre, Jésus fait cela, que dit Jésus à propos de l'Ancien Testament? Jésus déclare-t-il que l'Ancien Testament vient de Dieu? Jésus dit, pas un seul iota ni un seul trait ne passera de la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Que sont un mot et un titre? Un mot est un yod. C'est la plus petite lettre hébraïque. C'est comme la moitié d'une lettre. C'est la plus petite lettre hébraïque. Qu'est-ce qu'un titre? Un titre est, eh bien, savez-vous ce que sont les polices avec et sans empattement? Savez-vous pourquoi la police Times New Roman a une petite marque à la fin d'un, D? Il y a ce petit truc qui traîne sur le D, qu'on appelle un empattement. Sans empattement ressemblerait davantage à Arial où le D est juste une ligne droite puis un cercle. Lorsque Jésus ne dit pas un trait ou un titre est un empattement. C'est le petit crochet sur la lettre. Jésus dit que pas un iota ou un titre ne sera retiré de la loi jusqu'à ce que tout soit quoi? Jusqu'à ce que tout soit accompli. Jésus avait-il une assez haute opinion de la loi? Jésus a dit, je ne suis pas venu pour détruire la loi, je suis venu pour faire, quoi? Pour l'accomplir. Jésus considère la loi comme l'accomplissement de sa vie. Jésus a donc une très haute vision de l'Écriture comme venant de Dieu. Qu'a quatre étapes de Dieu à nous, inspiration, canonisation, transmission. Traduction 38, 51-50, 52. Or, il y a quatre étapes dans ce processus allant de Dieu à nous. La première étape s'appelle l'inspiration. L'inspiration est la respiration de Dieu, Dieu insufflant sa parole à ses prophètes. Les prophètes ont parlé et ils l'ont écrit. Au fait, si les prophètes ne l'ont pas écrit, est-il perdu pour nous? Dieu a-t-il déjà parlé à des gens qui ne l'ont jamais écrit? Il a fait. Par exemple, regardez le livre de Hulda. Où est le livre de Hulda? Quelqu'un a-t-il lu Hulda récemment? Ralde était une prophétesse, Dieu lui a parlé comme une prophétesse, et nous n'avons aucun de ses livres. Soit elle ne l'a pas écrit, soit elle l'a fait et il a été perdu. Mais l'inspiration, les prophètes l'ont écrite comme étant la parole de Dieu. Canonisation, quels livres font autorité? Qu'est-ce que la canonisation? Une fois que Dieu a écrit le contenu, le peuple de Dieu doit-il rassembler ses livres comme livres sacrés? Ainsi, les prophètes écrivent ce contenu, Dieu descend, parle aux prophètes, ainsi parle le Seigneur. Et le prophète l'écrit. La canonisation est le peuple de Dieu qui rassemble ensuite les livres considérés comme saints. Les gens doivent-ils décider quels livres sont saints et quels livres ne le sont pas? Y a-t-il des livres mentionnés dans les Écritures qui ne sont pas des livres saints? Dans le livre des rois, il est dit, « Si vous en voulez plus sur le roi Josia, consultez les annales des rois d'Israël et de Juda. » Avons-nous les annales des rois d'Israël et de Juda? Non. Ils n'étaient pas considérés comme des livres sacrés, mais comme les annales des rois de Juda. Mais l'auteur des rois a-t-il utilisé ces annales pour nous livrer certains de ses écrits? Oui. Alors, y avait-il d'autres livres dans le monde antique qui circulaient que nous n'avons pas et qui ne sont pas canoniques? Mais ceux que nous avons, le peuple juif, le peuple de Dieu, les ont rassemblés et ont dit, ce sont ceux qui viennent de Dieu. Cette collection de livres et la sanction de ces livres constituent le processus de canonisation. Transmission, la copie du texte par les scribes. Vient ensuite la transmission, c'est-à-dire la copie scribale. Les livres ont-ils dû être copiés encore et encore pendant des milliers d'années? Les scribes font-ils des erreurs? Lorsque vous copiez un livre de 1000 pages, faites-vous des erreurs? Je vais vous donner un traitement de texte avec correcteur orthographique, même dans ce cas, pouvez-vous taper 1000 pages sans erreur même avec correcteur orthographique? Est-il possible que si vous y reveniez plusieurs fois, vous puissiez probablement l'obtenir? Je pense que vous pourriez probablement le faire. Je pense que je l'ai fait moi-même. Ce que je dis, c'est qu'il est vraiment difficile de bien faire les choses. C'est égal à copie à la main. Question, copier 1000 pages à la main, est-ce un problème? Lorsque vous copiez à la main un millier de pages, vous rencontrez des problèmes d'écriture manuscrite et toutes sortes de choses. Donc les erreurs de rédaction, je vais vous montrer les erreurs, je vais vous montrer les erreurs dans votre Bible résultant du processus de rédaction. Maintenant, après l'avoir copié encore et encore pendant 2000 ans ou peu importe, maintenant vous devez faire quoi? La Bible a été écrite à l'origine en araméen, en hébreu et en grec. L'Ancien Testament a été écrit principalement en hébreu. Après leur retour de l'exil à Babylone, ils écrivaient et parlaient en araméen, puis en grec après le passage d'Alexandre le Grand. Nous l'avons donc dans ces langues et nous devons le traduire dans quoi? L'hébreu, bien sûr que non. Nous en avons besoin en anglais. Nous devons donc le faire traduire. Quel est le problème avec la traduction? Lorsque vous traduisez entre langues, est-ce que des choses se perdent dans la traduction? Les langues correspondent-elles parfaitement? Non. Et donc il y a quelques mots, je pense au mot risde, j'ai du mal à trouver comment traduire ce mot. Dois-je le traduire par « amour fidèle » ou « amour inébranlable » ou simplement « amour » ou « miséricorde » Comment traduire ce mot, alors qu'il n'y a pas un seul mot anglais qui corresponde à RISD, il n'existe tout simplement pas dans la langue anglaise. Question, ai-je un problème en tant que traducteur? Non, j'utilise juste la VNI et tu n'as pas à t'inquiéter blague. Mais voyez-vous le problème de passer d'une langue à l'autre? Divers moyens d'inspiration. Alors regardons le processus d'inspiration, comment Dieu a-t-il inspiré sa parole? Avec Moïse, Dieu parle-t-il face à face? Dans Nombre 12, Dieu dit à propos de Moïse, « Moïse n'est pas un prophète ordinaire, ce n'est pas un prophète normal. » Il dit, « Normalement, avec les prophètes, je leur parle en rêves et en visions, avec Moïse, ce n'est pas comme ça. Avec Moïse, je vais face à face, face à face. » D'ailleurs, c'est tellement face à face que lorsque Moïse descend de la montagne, quel est son visage? Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Son visage brille et les gens disent, « Eh, Moïse, tu as parlé à Dieu, reste juste là-bas, je n'aime pas ton visage brillant Moïse, cache-le. » Alors Moïse fait quoi? Moïse laisse tomber un voile sur son visage. Quand il monte pour parler à Dieu, il ôte le voile, et quand il descend pour parler aux gens, il met le voile. Moïse est donc un prophète et il a ce genre d'interaction avec Dieu. Normalement, Dieu descendait et disait au prophète, « Ainsi dit le Seigneur. » Et le prophète citait, « Ainsi parle le Seigneur. » Isaïe, Jérémie, tous les prophètes, « Ko amar Yahweh », puis ils citent le Seigneur. Ainsi, Dieu leur parle avec des mots, et il le révèle. Dieu a parlé dans des rêves et dans des visions. Il leur apparut même dans un buisson ardent. Maintenant, voici une autre façon dont Dieu a parlé en son Fils. Jésus, comme nous l'avons dit, devient le Verbe incarné. Jésus est la révélation ultime de Dieu parce que ce que vous avez, c'est la parole devenue chair. La parole, plutôt que d'être prononcée, est désormais vivante. La parole nous communique maintenant, non seulement par des paroles, mais aussi par des actes et des miracles des choses incroyables que Jésus a faites. La parole devient chair et maintenant Dieu s'incarne dans la chair. Les êtres humains peuvent-ils s'approcher de Jésus et lui donner un coup de poing dans le ventre? Oui. Quelqu'un se souvient-il du jardin d'Éden? Les gens du jardin d'Éden marchaient-ils avec Dieu et parlaient-ils avec Dieu? Oui. Ce qui se passe après la chute est maintenant coupé. Mais Jésus revient, en un sens, Jésus-Christ nous ramène-t-il au jardin où Dieu marche parmi nous? Mais que fait le peuple? Ils l'ont battu. C'est terrible. Ainsi Jésus, au commencement était la parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. C'est un beau passage du Nouveau Testament, Jean 1. Cependant, certains écrivains ont fait des recherches. En d'autres termes, ce n'était pas Dieu qui descendait et leur dictait quelque chose à l'oreille. Dans le livre de Luc, Luc va écrire un évangile sur Jésus-Christ, mais Luc a-t-il déjà rencontré Jésus-Christ? Non, Luc n'a jamais rencontré Jésus-Christ. Alors, sur quelle base Luc écrit-il un évangile sur Jésus-Christ? Eh bien, Luc nous dit d'où il tire ses données. Où Luc a-t-il obtenu ces informations? Beaucoup ont entrepris de dresser le récit des choses qui se sont accomplies parmi nous, telles qu'elles nous ont été transmises par ceux qui ont été dès les premiers témoins oculaires Luc 1, 1 à 4. Luc a-t-il obtenu ces informations sur Jésus-Christ auprès de témoins oculaires? Luc connaît-il la différence entre les témoins oculaires et les sources secondaires? Oui. Est-il un bon historien? Il dit, j'ai obtenu cette information de témoins oculaires. Il vérifie auprès des témoins oculaires et des serviteurs de la parole, car lui-même n'était pas un témoin oculaire. Car, puisque j'ai moi-même soigneusement étudié. D'où vient le livre de Luc? Cela vient de ses enquêtes minutieuses, de ses conversations et de ses entretiens avec des témoins oculaires. Tout depuis le début, maintenant il me semblait bon aussi d'écrire et d'ordonner les comptes. Maintenant, je vais l'ordonner, dit-il, pour toi, très excellent Théophile, afin que tu connaisses la certitude des choses qui t'ont été enseignées. Alors, où Luc a-t-il obtenu ces informations? Luc a obtenu ces informations en grande partie auprès de témoins oculaires qu'il a interviewés, et il nous dit cela, Luc 1, 1 à 4. Et maintenant, qu'en est-il de ceci, Salomon, dans Proverbes 25, 1? Salomon a écrit de nombreux proverbes, mais qui a construit le livre des Proverbes? Était-ce Salomon? Non. En partie oui, mais dans Proverbes 25, 1, il est dit, ce sont encore d'autres proverbes de Salomon copiés par les hommes d'Ézéchia. Ainsi, Ézéchia 700 avant J.C., au moins 200 ans après Salomon 960 avant J.C., à partir de la collection ou du livre des proverbes de Salomon, les hommes d'Ézéchia ont copié ces proverbes à partir de cette plus grande collection. Voyez-vous comment la Bible les a gagnés? Il possédait une grande collection de proverbes de Salomon, essentiellement les chapitres 25 à 29 des proverbes étaient copiés à partir d'une collection plus grande. Les hommes d'Ézéchia firent cela 200 ans après l'époque de Salomon. Alors, voyez-vous comment Dieu inspire les gens de différentes manières. C'est tout ce que j'essaie de vous montrer. En voici une que Paul fait. Paul dans Actes 17 lorsqu'il est sur la colline de Mars, lorsqu'il est à Athènes en Grèce. Il se promène en voyant tous ces dieux et il dit, et, vous avez raison. Un de vos poètes a dit, en lui nous vivons, nous bougeons et avons notre être, comme l'ont dit certains de vos poètes. Paul cite Areta, un poète païen, et dit que ce que les gars ont dit était vrai. Est-ce dans les Écritures? En lui nous vivons, nous mouvons et avons notre être, comme l'ont dit vos poètes. Paul cite un poète grec païen, et cela se trouve maintenant dans notre Bible. Dieu a-t-il inspiré les gens de différentes manières? Paul avait cette citation en tête, il la note et dit, non, c'était vrai, ce que ce type a dit. Maintenant, c'est sous l'inspiration de l'Écriture. Dieu a inspiré de différentes manières. Maintenant, il y avait une coopération extérieure. Permettez-moi de faire ça rapidement. Lorsque vous prenez la Bible, si vous avez lu d'autres livres, la Bible est-elle un livre incroyable, notamment en termes de qualité morale? Quelles sont les deux choses les plus importantes de la Bible? Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Question, si vous deviez choisir quelque chose de noble au monde, est-ce que ces déclarations font partie des plus grandes de tous les temps? Aimez Dieu de tout votre cœur, aimez votre prochain comme vous-même, ce sont des choses énormes. La Bible reflète cette qualité morale absolument incroyable. Les valeurs et les besoins humains les plus profonds sont satisfaits et exprimés dans les Écritures. La Bible est-elle un livre profond? Vous diriez, non, Hildebrandt, je connais le livre de la Genèse. Je vais vous dire que quelqu'un dans le dernier cours a dit, je connais assez bien le livre de la Genèse. Je veux juste vous dire que je ne connais pas le livre de la Genèse et que je l'enseigne depuis de nombreuses années. Y a-t-il des choses dans les nombres, entre autres, sur lesquelles je m'interroge encore jusqu'à ce jour? Le livre de la Bible est incroyablement profond, vous pourriez passer votre vie à en étudier la profondeur et le sens. Elle erreur présumée dans la Bible, chameau, Hittite, David. Et confirmations archéologiques 50, 53-60, 05. Voici maintenant quelques éléments concernant la Bible. Les critiques ont attaqué la Bible et vous obtenez des choses comme celle-ci, laissez-moi juste vous donner l'argumentation à propos du chameau. J'adore les chameaux. En fait, la vérité est que je déteste les chameaux. J'ai dormi près d'un chameau une nuit et, si quelqu'un dit que vous avez l'haleine de chameau, ce n'est pas un compliment. Les chameaux ont l'haleine la plus odorante, c'est la pire odeur que j'ai sentie de toute ma vie. Nous avons dormi à côté d'un chameau et il a respiré sur notre tente toute la nuit. C'était terrible, même si j'ai beaucoup de respect pour les chameaux. Alors, quel est le problème avec les chameaux? Les critiques disent que la Bible se trompe et qu'elle contient des erreurs. La Bible dit qu'Abraham avait des chameaux. Quand est le rendez-vous d'Abraham? 2000 avant J.C. La Bible dit qu'il a des chameaux. Les critiques affirment que les recherches montrent que les chameaux n'ont été domestiqués qu'en 1200 avant J.C., et la Bible dit qu'Abraham avait des chameaux, environ 2000 avant J.C. Il est évident que les gens ne savaient pas qu'Abraham ne pouvait pas faire domestiquer des chameaux, car ils ne l'ont été que 800 ans plus tard. La Bible contient une erreur. Je suis sérieux, cela a été discuté. Et voilà, des archéologues creusent et arrivent à un endroit appelé Ebla. Ebla date d'environ 2400 avant J.C., ce qui la place environ combien d'années avant Abraham? Environ 400 ans avant Abraham. Devinez ce qu'il avait à Ebla. Et voilà, des chameaux domestiqués à Ebla, 400 ans avant qu'Abraham ne vive. Question, la Bible dit qu'Abraham avait des chameaux, est-ce vrai?
C'est exact.
Ces critiques se sont-ils trompés?
Oui, ils se sont trompés.
En voici maintenant un autre, les Hittites. La Bible mentionne que Uri le Hittite était marié à Bethsabée. Il y a aussi d'autres Hittites dans la Bible? Les critiques ont dit, la Bible est fausse, nous connaissons tous les peuples du monde antique, nous avons toute l'archéologie, il n'existe aucun groupe appelé Hittite, nous n'avons aucune trace de ce peuple Hittite, donc il n'existait pas. La Bible se trompe, les Hittites n'existaient pas. Et voilà, quelqu'un monte dans la partie nord de la Turquie, et tout d'un coup, il commence à creuser à Bogazkoy, et devinez quoi? Il s'avère que c'est la capitale de l'Empire Hittite, et il déterre toute une culture hittite. Au fait, pouvez-vous maintenant aller à l'université de Pennsylvanie et étudier la langue hittite?
Oui.
Il existe toute une culture avec des milliers de tablettes des hittites, en effet le livre du Deutéronome est construit à partir d'une forme de traité hittite. Alors question, savons-nous maintenant que les hittites ont bel et bien existé et que les critiques avaient tort et que la Bible était quoi?
Droite.
Ce que j'essaie de demander, c'est, la Bible est-elle historiquement fiable?
Oui.
Et ce que je dis, c'est que les critiques qui le critiquent finissent par se tromper. Et David?
Il y a seulement 30 ans, on disait que David n'existait pas vraiment. David était le roi Arthur dans le monde antique, ils ont juste inventé David, cette figure de ce grand roi bienveillant. C'est comme le roi Arthur, qui n'a jamais vraiment existé. Ils projetèrent tous leurs idéaux sur David et constituèrent ce merveilleux roi idéalisé. Nous n'avons aucune trace archéologique de David et il n'a donc jamais existé. Et voilà, je pense que c'était dans les années 1980, l'archéologue avec une pelle, il déterre quelque chose d'aussi gros. Il s'est avéré que c'était une grenade, et la grenade date d'environ le 9e ou le 10e siècle avant J.C., soit à peu près à l'époque de David, et devinez ce que dit la grenade sur le côté. Il est écrit, le DVD. Maintenant, laissez-moi marcher ici une minute. C'était le premier enregistrement du DVD dans l'histoire. Qu'il allait y avoir des DVD et que vous les avez tous utilisés, et historiquement vous pouvez voir à quel point les juifs sont brillants et en avance sur leur temps, les DVD. Eh bien, quel est le problème avec ça?
La raison pour laquelle je dis le qui signifie, pour, ou, pour, quel est le problème avec l'hébreu ancien?
Ils n'ont pas utilisé quoi?
Voyelles? Vous avez donc les lettres DVD, devinez ce que vous y remplissez, vous n'avez pas besoin d'être trop intelligent pour le comprendre. Vous avez deux emplacements pour les voyelles, quelles sont les voyelles?
C'est inscrit sur une pierre, qui inscrit des choses sur une pierre.
Est-ce que c'est de la royauté ou est-ce un homme pauvre?
Les hommes pauvres utilisent des tessons de poterie, morceaux de poterie cassés.
Un homme riche sculpte la pierre.
Donc, c'est la royauté, c'est David, à David.
Devinez où la moitié des psaumes, enfin pas la moitié, mais une tonne de psaumes, devinez comment il commence.
Le David, ou, pour David.
Alors quelqu'un dit, comment savons-nous que DVD signifie David?
Certains critiques n'acceptent toujours pas cela et disent donc que DVD représente en réalité un dieu, à un DVD / dieu.
Je ne parle pas de vos DVD, non, ils disaient qu'il y avait un dieu appelé, et en fait ils utilisaient des DVD, DVD du monde antique.
Mais quel est le problème avec cet argument?
Dans tous nos disques, y a-t-il un dieu nommé DVD, avec ou sans les voyelles?
Non, il n'y a aucune trace de cela.
C'est une pure hypothèse de leur part, parce qu'ils ne veulent pas l'accepter.
DVD signifie probablement quoi?
Si quelqu'un a déjà fait quelque chose avec l'hébreu et que vous voyez un DVD, cela signifie David.
Nous en avons donc désormais des enregistrements réels.
Maintenant, nous avons aussi le scribe de Jérémie, laissez-moi vous parler des bulles.
Ces gars-là portaient des trucs sur leurs bagues.
C'était comme une empreinte digitale.
Ce que vous faisiez sur vos bulles, vous le mettiez dans de la cire ou dans de la boue parce qu'il écrivait sur de la boue. Vous le mettiez dans la boue, et il laissait votre empreinte, et d'ailleurs vous saviez que c'était votre empreinte parce qu'elle portait votre nom. C'est ce que faisaient les scribes, c'est ainsi qu'ils détenaient le droit d'auteur, à l'époque. C'était une blague, d'accord. Lorsqu'ils se sont trompés sur le document, cela signifiait que c'était leur document. Il y avait ce type nommé Jeremiah, il écrivait quelques livres, un gros livre en fait, et il aimait se lamenter. Il avait un scribe nommé Baruch, Baruch le scribe. Devinez quoi? En 1975, vous le voyez là, c'est la bulle de Baruch. Dans Jérémie 36, Dieu descend et dit, « Jérémie, je vais commencer à te parler et tu dois commencer à l'écrire. Vous devez demander à l'un des scribes de l'Ancien Testament de Hildebrandt de taper ceci pour vous parce que je vais commencer à parler et vous devez l'écrire. Alors sortez et trouvez-vous un scribe. De plus, je vous dirai le nom du scribe. Je veux que tu trouves Baruch, le fils de Neria, le scribe. Trouvez ce type et il va l'écrire pour vous. Avons-nous la bulle, la chevalière de ce type? Avons-nous cela? Au fait, c'est Barakaïa le fils de Naria le scribe, ça vient exactement de la même époque. En 1975, cela a été découvert. Le gars qui portait cette bague, a-t-il écrit les écritures? A-t-il copié les écritures de la bouche de Jérémie? Nous avons les bulles du gars. Est-ce assez incroyable? Vous ne pouvez pas inventer ce truc. C'est incroyable, nous avons en fait ça, la véritable bulle de ce type. Il est dit ici que c'était ses bulles, et il a en fait écrit cela dans Jérémie 36. Il y a aussi Jéramel, Soria, Gemaria, ce sont aussi des gars mentionnés dans le livre de Jérémie et ils ont trouvé des artefacts avec les noms de ces gars dessus. Est-ce assez incroyable? Tout ce que j'essaie de dire, c'est, la Bible est historiquement fiable. Devons-nous déterrer des éléments 2000 ans plus tard qui confirment ce qui se passait? Nous avons donc Balaam, est-ce que quelqu'un connaît Balaam et son âne qui parle? Sachez que le nom de cet homme a effectivement été trouvé, Balaam, le fils de Bia. Ils ont en fait trouvé quelque chose en Transjordanie avec le nom de ce type dessus, pas seulement dans la Bible, mais en dehors de celle-ci. Sur la pierre de Mesa du roi de Moab, ils trouvèrent Amri. Amri est célèbre car il est le père du roi Achabé. Vous souvenez-vous d'Achabé et de Jézabel? C'est le père d'Achabé. Il est en fait mentionné dans les archives en Assyrie, parce qu'en Assyrie on appelait Israël, le pays d'Onri. Donc ce type est confirmé dans les documents assyriens dans les annales des Assyriens, Amri y est répertorié. Sennachérib, le roi d'Assyrie, est également mentionné dans la Bible. Les témoins de la résurrection ne sont que d'autres choses aussi, liées à l'historicité. Paul dit que 500 personnes ont vu Jésus ressusciter des morts en même temps. Monsieur prophétie accomplie 60:06-62:32. Maintenant, prophétie accomplie, je vais y répondre rapidement. Pour être honnête, chacune d'elles pourrait prendre une heure, deux heures, trois heures, à commencer par Tyre. Ézéchiel a prédit dans la Bible que Tyre, cette ville extrêmement puissante, serait détruite, qu'il serait aplati comme une crêpe et jeté dans l'océan. Devinez quoi? Alexandre le Grand arrive 200 à 300 ans plus tard et devinez ce qu'il fait. Il s'approche de Tyre et dit, et, cette ville va dans l'océan. Il jette toute la ville dans l'océan, et la longue histoire est que Ézéchiel a prédit la destruction de Tyre, et c'est exactement ce qui s'est produit. Isaïe nous parle de Cyrus, 200 ans avant sa mort. Isaïe nous parle de Cyrus. Ensuite, Cyrus le Perse arrive et libère le peuple. Cyrus est l'un des plus grands, si jamais vous souhaitez étudier quelqu'un de grand dans l'Ancien Testament. J'appelle Alexandre le Grand, Alexandre le Raisin, vous savez, je m'amuse avec lui, mais Cyrus, je lui dis Monsieur Cyrus. Vous voulez étudier un leader, un vrai leader, regardez Cyrus, ce type a mon plus grand respect. Ses troupes le respectaient tellement qu'après sa mort à 75 ans en menant ses troupes au combat, les Médo-Perses portèrent son corps sur des milliers de kilomètres pour l'enterrer avec dignité et respect. Avait-il le respect de ses troupes? ils ont transporté son corps sur des milliers de kilomètres pour lui offrir un enterrement décent. Cyrus est un grand roi guerrier. À propos, Isaïe laisse également entendre que Cyrus est un oin. Qu'est-ce qu'un oin, en hébreu, moins le Messie? Vous obtenez cette impression que Cyrus est loin, une sorte de précurseur de Jésus. Alors, bien sûr, Jésus a-t-il été prédit dans l'Ancien Testament? Oui, né à Bethléem. Si vous voulez lire quelque chose sur Jésus, lisez Ésaïe 53 et lorsque vous avez terminé, cela vous époustoufle. Ici, dans 1 Roi 13, il est question du roi Josias, 300 ans avant que Josias ne vive. Josias est prédit, et cela raconte ce qu'il ferait. La Bible prédit ce que cet homme ferait, l'appelle par son nom et raconte ce qu'il ferait 300 ans avant de vivre. Alors, ce livre contient-il des choses assez spectaculaires? Oui. N. Canonisation 62, 33-74, 36. Passons maintenant à la canonisation. Avons-nous enregistré dans la Bible tout ce que Dieu a jamais dit? Eh bien, avons-nous le livre de Hulda? Non. Dieu a parlé à Hulda, Hulda s'est adressée au peuple. Elle était une prophétesse de Dieu, mais nous n'avons pas son livre. Il y a donc certaines choses que Dieu a dit vouloir pour cette époque, mais pas pour toujours. Dites-vous des choses que vous voulez juste que vos parents sachent mais que personne d'autre ne sache? Alors il a parlé, et il n'a pas tout enregistré pour toujours. Salomon, par exemple, a écrit 3000 proverbes. Combien de proverbes avons-nous dans notre Bible de Salomon? Environ 375. Cela signifie que nous n'avons qu'environ un dixième de ce que Salomon a écrit. Vous savez que Salomon a écrit 1000 chants, combien de chants de Salomon avons-nous? Oui, ils ont mis le cantique de Salomon dans la Bible et ont dit, ça suffit, nous ne voulons plus de ça. Quoi qu'il en soit, il y a 3000 proverbes, nous en avons environ 375. Salomon a-t-il écrit beaucoup de proverbes que nous n'avons pas? Oui. En voici un classique de Jésus. À la fin de Jean, Jean dit, « Vous savez, je vous ai écrit et dit beaucoup de choses sur Jésus, mais si je devais vous dire tout ce que je sais sur Jésus, les livres du monde ne pourraient pas le retenir. » En d'autres termes, il y a beaucoup de choses que Jésus a faites qui ne sont pas écrites dans ce livre. John le dit sans ambages, il y a beaucoup de choses que Jésus a faites et que je n'ai pas mises dans ce livre, sinon le livre aurait été trop gros. Alors Jean s'exprime catégoriquement et nous dit qu'il y a beaucoup de choses que Jésus a faites qui ne sont pas enregistrées. Maintenant, lorsque les choses ont été enregistrées par Dieu, les gens ont-ils approuvé ces choses et les ont-ils immédiatement considérées comme faisant autorité? Ou bien, la légende et la tradition ont-elles dû se développer pour accroître leur autorité? Faisaient-ils instantanément autorité? Prenons Moïse, par exemple, il descend du mont Sinaï, il a les 10 commandements, n'est-ce pas? Il descend vers le peuple. Ces 10 commandements sont-ils immédiatement acceptés comme faisant autorité de la part de Dieu? Après avoir détruit les premiers, il ressort avec les seconds. Mais il descend et ceux-ci sont immédiatement acceptés et en fait les 10 commandements sont mis à quelle place pour montrer qu'ils sont sanctionnés comme venant de Dieu? Où ont été placés les 10 commandements? Ils furent placés dans l'Arche des Alliances. Avez-vous vu Indiana Jones? Qu'y a-t-il dans l'Arche? Vous l'ouvrez et les visages des gens fondent. Quoi qu'il en soit, les 10 commandements ont été placés dans l'Arche, cela montre-t-il que ces 10 commandements ont été immédiatement acceptés comme la parole de Dieu et qu'ils ont été sanctionnés comme tels? Dans 1 Roi 8, 9, Salomon dit qu'il a emmené l'arche dans le temple. Rappelez-vous que Salomon a construit le temple, puis il a transporté l'arche dans le temple et a dit, et, l'arche était censée avoir un pot de manne, le bâton bourgeonnant d'Aaron et les 10 commandements. J'ai amené l'arche ici et l'arche n'a que les 10 commandements, maintenant c'est tout ce qu'il y a dedans. Les deux autres choses ont disparu. Je me suis toujours demandé comment il avait découvert ça. Il a dû passer une radiographie ou quelque chose comme ça. Alors, à l'époque de Néhémie, que font-ils à leur retour de l'exil babylonien? Ils lisent le « Livre de la Loi ». À propos, les Juifs lisent-ils encore aujourd'hui le Livre de la Loi lors de plusieurs de leurs fêtes? est-il accepté comme faisant autorité pour ce groupe? Le peuple de Dieu accepte-t-il la parole de Dieu? Alors ils disent, d'accord, ce sont les livres qui sont bons et qui sont là-dedans. Y a-t-il encore des gens qui recherchent l'arche? Qu'est-il arrivé à l'arche? J'ai eu cette question lors du dernier cours. Je pense que l'arche, lorsqu'ils sont allés en exil, se souvient qu'ils sont allés à Babylone. Souvenez-vous de Daniel, Shédrec, Meshach, Abednego et Nabuchodonosor, ils sont allés à Babylone. Fondamentalement, Nabuchodonosor a rasé le temple de Salomon. Ils ont fait quoi avec l'or? Ils l'ont fondu et ont pris tout le bronze et l'airain et l'ont transporté à Babylone et il a tout simplement disparu. Maintenant, certains pensent-ils que les Juifs ont caché l'arche dans le désert de Judée? Il y a quelques années, il y avait un type qui dépensait beaucoup d'argent pour chasser dans toutes les grottes du désert de Judée, essayant de trouver cette arche enterrée sous des objets. C'est un peu comme Indiana Jones, mais il y a des gens qui font ça. Je pense que l'arche a disparu, et cela soulève aussi un point important. Préservation de la parole de Dieu. L'arche est partie. Avons-nous la copie originale d'Isaïe? La copie originale d'Ésaïe que Ésaïe a écrite, l'avons-nous? Dieu aurait-il pu préserver cela? Oui. Dieu l'a-t-il préservé? Non. Jérémie, Isaïe, Daniel, les psaumes de David, les avons-nous? Avons-nous des écrits du Pentateuque, de Moïse? Non. Dieu a-t-il parfaitement préservé sa parole ou l'a-t-il confiée aux scribes? Or, lorsque les scribes le copient, font-ils des erreurs? Pourquoi Dieu a-t-il perdu sa parole et n'a-t-il pas préservé l'original parfait? Je vais faire une suggestion, j'invente juste cela, mais il me semble que si Dieu avait préservé les 10 commandements, que feraient les gens à cela? Les gens l'adoreraient. Si vous aviez le véritable livre de Moïse, les gens adoreraient-ils la relique plutôt que le Dieu du livre? Je suppose donc que Dieu a dit, et, je veux que tu m'adores. Pas les reliques. Alors laissez-les partir et adorez-moi. C'est pourquoi je pense que ces textes ont été perdus. Au fait, est-ce que je viens d'inventer ça? Oui. Mais est-ce que cela a un peu de sens? Si vous en avez un meilleur, venez me parler. En voici un, c'est l'Apocalypse. Y a-t-il des déclarations dans la Bible que vous ne devriez pas ajouter ou soustraire aux Écritures? À la fin du livre de l'Apocalypse, il est dit, « Quiconque ajoutera à ce livre, les malédictions de ce livre vous seront ajoutées. Celui qui retranchera de ce livre, ton nom sera retranché de l'arbre de vie. » Est-ce une mauvaise chose? C'est une mauvaise chose. À propos, Deutéronome 4, 2 fait la même chose. Moïse dit de ne rien ajouter ni soustraire à ce livre, cela vient de Dieu, c'est une œuvre canonique, ne plaisantez pas avec cela. Pierre, Paul et l'autorité immédiate. Maintenant, l'un de ceux que j'aime est Pierre et Paul. Vous avez cette déclaration de Peter. Quelle était la relation de Pierre avec Paul? Paul a-t-il réprimandé Pierre en face? Pierre et Paul, dans le livre des Galates, l'ont expliqué. Pierre disait, peut-être que les gentils devront être circoncis, peut-être qu'ils devront faire toutes ces choses juives. Paul dit, non, tu as tort Pierre. Au fait, Pierre est-il le grand disciple? Paul est le nouveau venu. Paul s'approche de Pierre, lui met le doigt devant le visage et lui dit, Pierre, tu as tort. Et il le réprimanda en face. Qu'en dit Pierre? Dans 2 Pierre, Pierre a-t-il le dernier mot? Dans 2 Pierre, voici ce qu'il dit à propos de Paul, « Gardez à l'esprit que la patience de notre Seigneur signifie le salut, tout comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. » Pierre reconnaît-il que Dieu a donné la sagesse à Paul et que Paul leur écrivait? Oui. Pierre reconnaît que Dieu a donné la sagesse à Paul. Maintenant, quel était le métier de Pierre? Un pêcheur. Quel était le métier de Paul? Un fabricant de tentes, certes, mais il était plutôt un érudit, étudiant auprès du rabbin Gamaliel. Donc Peter est pêcheur. Voici ce que Pierre dit à propos de Paul, il écrit de la même manière dans toutes ses lettres. Pierre était-il au courant de toutes les lettres de Paul? Les lettres de Paul ont-elles mis des années et des années avant de faire autorité ou faisaient-elles immédiatement autorité? Pierre a-t-il immédiatement reconnu l'autorité des lettres de Paul? Il dit, Paul a écrit de nombreuses lettres, Dieu lui a parlé avec sagesse, y parlant de ces sujets, et j'aime cette partie, ces lettres contiennent des choses difficiles à comprendre. Est-ce que c'est le pécheur qui parle? Si vous avez lu les lettres de Paul dans le Nouveau Testament, Paul écrit des idées assez avancées. Et Pierre le reconnaît, il dit, Paul écrit la sagesse de Dieu, et je ne suis pas sûr de comprendre tout cela. Ce que les ignorants et les instables déforment comme ils le font, quoi? Ils déforment les lettres de Paul, comme ils le font pour les autres Écritures. Cela veut dire qu'il met les lettres de Paul au même niveau que quoi? Les Écritures, les écrits sacrés. Pierre a-t-il immédiatement accepté les écrits de Paul? Oui. Et donc ce sont des versets importants. Il faisait immédiatement autorité et vous pouvez le voir ici avec Daniel. Daniel cite Jérémie, ils étaient contemporains, ils vivaient à la même époque. Daniel dit, Jérémie a dit que nous allions rester à Babylone pendant 70 ans. Cela va faire 70 ans. Daniel accepte immédiatement Jérémie. Le peuple de Dieu a donc immédiatement accepté la parole de Dieu. Critère de canonisation. Maintenant, la question qui se pose ici est la suivante, pourquoi certains livres ont-ils été acceptés et d'autres rejetés? En d'autres termes, ils ont été acceptés immédiatement, mais ensuite, il y a un processus. Si Paul écrit à Éphèse, les gens d'Éphèse reçoivent cette lettre, mais les gens assis à Rome ne savent rien de cette lettre. Ces lettres devaient être distribuées, ce qui pose le problème de la circulation. Et puis la question est, ok, nous sommes assis à Rome, pouvons-nous obtenir la lettre aux Éphésiens? Est-ce que Paul a vraiment écrit ça? Était-ce vraiment celui-là? L'Église primitive a donc dû lutter contre cela pendant probablement 200 à 300 ans. Il y a eu un processus de canonisation, mais ce que je vous suggère, c'est ceci, existe-t-il des preuves dans les Écritures que les choses ont été acceptées immédiatement? Mais le problème me semble plutôt lié à la circulation dans l'Église primitive. Mais avec les Juifs, c'est le même genre de choses. Je veux terminer là, mais faisons quelques rubriques bibliques. Transcrit par Erika Abrahamsson. Brut édité par Ted Hildebrandt -2.